Sur certaines horloges, on lit « Tempus fugit », une petite phrase très parlante. On dit aussi que le temps ne s'arrête jamais, et c'est bien vrai. Que j'y pense ou pas, que je sois très occupé ou que je m'ennuie, les heures, les minutes, les secondes s'égrènent inlassablement. Le prophète Ézéchiel est remonté jusqu'à la naissance de la nation israélite pour montrer que sa culpabilité ne date pas d'hier, mais que c'est un peuple rebelle depuis son origine. Puis il a décrit en détail les raisons de son châtiment. Il a prédit l'exil babylonien de la nation, son retour dans son pays, ainsi que sa renaissance spirituelle. Maintenant, le prophète se projette dans l'avenir et parle des événements de la fin des temps. Je commence à lire le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, tourne tes regards vers Gog, au pays de Magog, prince suprême de Méchec et de Toubal. Prophétise contre lui et dis, « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méchec, ainsi que de Toubal. » Le mot hébreu « roche » traduit par « prince suprême » peut aussi désigner un peuple, mais dans ce cas, Ézéchiel est le seul auteur biblique à le mentionner. À cause des similarités de consonance, certains commentateurs assimilent « roche » à la Russie, « Méchec » à Moscou et « Toubal » à Tobolsk, une ville de Sibérie. Ce qui est sûr, c'est que la Russie et plusieurs anciens satellites de l'URSS, comme la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan ou encore l'Arménie, ainsi que l'Iran et la Turquie, feront partie de cette confédération nordique. Quand on regarde une carte du monde, on s'aperçoit que l'armée venant du Grand Nord devra traverser le territoire d'environ 500 km de large qui sépare la mer Noire et Caspienne et qui appartient à la République de Géorgie. Les peuples mentionnés par Ézéchiel se trouvent dans la liste des noms de la lignée de Noé que nous donne le livre de la Genèse. Ainsi, son fils Japhet eut pour descendants Gomer, Magog, Madéi, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Parmi eux, Ézéchiel en mentionne quatre, Magog ici, et plus loin Gomer, Toubal et Méchec. L'historien juif Joseph identifie Magog au Scythe, et Jérôme, un père de l'Église, écrit qu'il habitait le Caucase et les régions proches de la mer Noire et Caspienne. Au 7e siècle, avant notre ère, les Scythes se sont même permis d'attaquer les Assyriens qui ont eu un mal fou à les refouler. Bien plus tard, les Scythes freinent l'expansion de l'Empire perse, mais au second siècle avant notre ère, ils disparaissent et leur ancien territoire est aujourd'hui occupé par les Russes. Méchec ou Toubal sont les deux peuples que les Assyriens appelaient Muski et Tubali, et qui habitaient l'est de l'Asie mineure sur le bord de la mer Noire. Ézéchiel cite également, comme fils de Japhet, Madéi, le père des Mèdes, qui habitait au sud de la mer Caspienne, la plus grande mer intérieure du monde et qui se trouve au nord de l'Iran. Quant à Gomer, c'est de lui que sont issus les Cimériens. D'abord, installés au nord du Caucase, ils en sont chassés par les Scythes et à l'époque d'Ézéchiel, ils ont immigré au centre de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, où ils mènent une vie de nomades de pilleurs. Quand tous les Juifs de la grande diaspora seront rentrés dans leur pays, Gog prendra la tête d'une vaste confédération située littéralement à l'extrémité du Septentrion, c'est-à-dire dans le Grand Nord par rapport à la Palestine, et attaquera Israël dans l'intention folle de l'anéantir et de le piller. Mais Gog et ses alliés ne se doutent pas que c'est Dieu lui-même qui les amène au lieu d'un grand règlement de compte dont la deuxième étape et le dénouement final est appelé Armageddon, un mot qui désigne le champ de bataille prophétique où, à la fin des 7 années de tribulation, les nations du monde entier se rassembleront pour se faire la guerre et s'autodétruire. Les détails nous sont donnés dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Armageddon se trouve dans une plaine à côté de la ville antique de Megiddo, située à environ 40 km au sud-est du port israélien de Haïfa. Au début du XXe siècle, on y a retrouvé une vingtaine de villes superposées qui forment une colline, un tel, de 23 mètres de haut et couvre une superficie de 6 hectares. Dans les Écritures, et par extension, le terme Megiddo s'applique souvent à toute la Palestine. Il faut dire que cette région est d'une importance stratégique facile à comprendre, puisqu'elle est, d'une part, la plaque tournante des continents Asie, Afrique, Europe, et d'autre part, en sandwich entre la Méditerranée et le canal de Suez au sud. De plus, la Palestine est située à proximité des immenses réserves de pétrole du Moyen-Orient et comprend la mer Morte, qui contient de vastes quantités de toutes sortes de minéraux. L'invasion de la Grande Confédération venue du Grand Nord se fera juste avant le milieu des 7 années de tribulation. Dans les prophéties de Daniel, nous lisons que l'Antichrist sera alarmé par des nouvelles venues de l'Orient et du Grand Nord, c'est-à-dire qu'il sera ébranlé par ces attaques surprises de Gog. Mais Gog et toutes ses armées seront détruits par l'Éternel lui-même. Ce sera, comme je l'ai déjà dit, la phase initiale d'Armageddon qui embrasera la Palestine et qui aura lieu à la fin de ces 7 années de tribulation. Cette grande bataille procédera à la délivrance finale d'Israël et surtout sa conversion à Jésus-Christ, son Messie. Je continue le texte. « Je te ferai faire demi-tour. » Je te mettrai des crochets aux mâchoires. Je te ferai sortir, toi et tous tes soldats, tes chevaux, tes équipages, tous superbement revêtus, portant le grand et le petit bouclier, maniant l'épée. L'image des crochets aux mâchoires a déjà été utilisée pour décrire le jugement de l'Égypte. Mais ici, ces crochets signifient que Dieu tire Gog et sa confédération d'agresseurs par le bout de leur nez. Il les a aguichés, appâtés, comme à la pêche, en faisant miroiter devant eux les richesses de la Palestine. Alors, saisis par leur propre convoitise, ces nations veulent profiter d'une situation internationale chaotique qui ne nous est pas précisée pour aller piller Israël. Bien évidemment, ces nations ne se doutent pas que c'est Dieu qui les attire dans un guet-apens afin de leur faire subir une cuisante défaite et ainsi les juger à cause de leur antagonisme viscéral à l'égard d'Israël, son peuple. Je continue. Perses, Éthiopiens et ceux de Put les rejoindront, tous équipés de casques et de grands boucliers. Cette invasion venant du Grand Nord aura pour confédérer une coalition de puissances qui se trouve à l'est et au sud d'Israël. Put désigne l'Afrique du Nord, situé à l'ouest de l'Égypte, et en particulier la Libye. Les Éthiopiens désignent le Soudan et la partie sud de l'Égypte. Je continue. Gomer et toutes ses légions et le peuple de Togarma aux confins du Septentrion et toutes ses légions des peuples innombrables seront tes auxiliaires. Togarma est un fils de Gomer. Donc, un petit-fils de Noé. Il s'était installé à l'est de la Turquie et en Arménie. Gomer est l'ancêtre des Cimériens qui habitaient le Caucase avant d'en être chassés par les Scythes. Je continue. Prends tes dispositions et tiens-toi prêt, toi et toutes tes troupes groupées autour de toi. C'est toi leur commandant. L'Éternel ordonne à Gog de se mettre en marche à la tête de tous ses peuples. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est Dieu qui décide le cours de l'histoire humaine, tandis que les politiciens, les dictateurs, Les chefs d'État, les généraux et tous ceux qui se croient importants ne font, en fait, qu'obéir à l'Éternel, mais sans en être conscients, évidemment. Je continue. Au bout de bien des jours, tu recevras des ordres. Dans la suite des temps, tu iras envahir un pays dont les habitants auront échappé à l'épée et auront été rassemblés d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël, qui étaient si longtemps désertes et en ruine. Cette population, qu'on aurait fait sortir du milieu d'autres peuples, habitera entièrement dans la sécurité. Après la destruction de Jérusalem par le général romain Titus en l'an 70 de notre ère, les Israélites survivants sont dispersés dans le monde entier. Ce sont des peuples païens et des tribus arabes qui occupent leur territoire jusqu'en 1948, année de la naissance de l'État moderne d'Israël. Tout commence avec Théodore Herzl, écrivain juif autrichien et fondateur du mouvement sioniste. Dans son ouvrage « L'État juif », il écrit « Il existe un pays sans peuple et un peuple sans pays. Donnez le pays sans peuple au peuple sans un pays. » Après lui vient Chen Weisman, originaire de Biélorussie, qui défend le droit d'exister d'Israël devant une commission d'enquête anglo-américaine. De son discours, on retiendra ces paroles. La nation juive est une nation fantôme. Le peuple juif doit la vie au seul Dieu d'Israël. Weisman fut le premier président de la République d'Israël. À la même époque, David Ben-Gurion, originaire de Pologne, participe activement à la création de l'État d'Israël et devient son chef de gouvernement à deux reprises. C'est lui qui a déclaré « Le chapitre 37 d'Ézéchiel est accompli et la nation d'Israël entend les pas du Messie ». Aujourd'hui pourtant, cet idéaliste religieux est bien loin. Dans le grand auditorium de Tel Aviv est écrit en hébreu et en anglais « La science apportera la paix à ce pays ». Cependant, selon les écrits de l'Ancien Testament, ce n'est pas la science, mais le Messie qui est porteur de paix. Mais dans leur immense majorité, les Israéliens modernes ont totalement abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Alors, j'écris ces lignes, la plupart des Juifs sont dispersés dans le monde. Cependant, le tableau que peint Ézéchiel indique qu'ils sont rentrés dans leur pays et aussi qu'ils se sentent en parfaite sécurité, ce qui n'a jamais été le cas depuis le règne de Salomon. Même après le retour de l'exil babylonien, ils ont dû reconstruire les murailles de Jérusalem en tenant l'épée d'une main et la truelle de l'autre. Si dans la prophétie d'Ézéchiel, Israël n'est plus armé jusqu'aux dents comme aujourd'hui, c'est que le peuple se trouve sous la protection d'une nation très puissante. Or, on sait, d'après le prophète Daniel, qu'à un certain moment, l'Antichrist conclura un pacte avec Israël. Mais au bout de 3 ans et demi, cet homme infâme abrogera cette alliance et commettra une profanation abominable dans le temple reconstruit. Cette paix illusoire, rompue, déclenchera une période de guerre et de persécution terrible qui dureront 3 ans et demi, qui s'appelle la Grande Tribulation, et qui se terminera par le retour glorieux du Christ qui vaincra l'Antichrist et toutes les forces impies. Puis il établira son royaume 2000 ans sur la terre. Je continue. Tu montes, tu arrives comme un ouragan qui s'abat, comme un nuage qui va couvrir la terre, toi et tes bataillons et les peuples nombreux qui marchent avec toi. Si Gog s'en prend à Israël, c'est pour le piller, bien sûr, mais surtout à cause de son antisémitisme viscéral. Avant la venue du communisme, la Russie persécutait sévèrement les Juifs. D'ailleurs, pogrom est un mot russe qui veut dire détruire entièrement. C'est tout dire. Aujourd'hui en Russie, la Pamia est une organisation antisémite puissante qui accuse les Juifs de tous les maux et cherche à les expulser du pays. Comme je l'ai dit, cette suite à des événements marquants qui auront lieu sur la scène internationale que Gog essaiera d'envahir Israël, et cette attaque genre guerre éclair sera brusque et brutale, tout comme l'invasion de Juda par les Babyloniens. Au moment de cette agression, Gog sera allié à certaines nations islamiques qui, on le sait, ne cachent pas leur haine pour Israël. Je continue. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des projets naîtront dans ton cœur. Tu concevras un dessein criminel et tu diras, « Je vais attaquer un pays ouvert et j'arriverai chez des gens qui vivent tranquilles dans la sécurité, habitant dans des villes sans remparts, sans verrous, et qui n'ont pas de portes. Tu iras pour piller et faire du butin, et pour porter la main sur des lieux auparavant désolés, maintenant habités, contre ce peuple rassemblé d'entre les nations, ayant des troupeaux et des biens, qui habitera à présent au centre de ce monde. » Le centre du monde, ou joyau de la terre, est un nom qui sert parfois à désigner la Palestine à cause de sa situation géographique privilégiée. La mention de villes sans remparts, sans verrous et qui n'ont pas de porte décrit les trois premières années et demie de la tribulation, période pendant laquelle Israël se croit tellement en sécurité sous la protection de l'Antichrist que la nation a renoncé à s'assurer sa propre défense à cause de l'énorme fardeau financier que constitue une armée suréquipée et constamment sur le qui-vive. Mais tout de suite après la destruction de Gog, l'Antichrist rompt son alliance avec Israël. Et alors commencera la grande tribulation avec des cataclysmes sur terre et une persécution contre les Juifs qui seront sans précédent. Cette grande détresse durera 3 ans et demi jusqu'à la fin des 7 ans de la tribulation et culminera par la formidable bataille d'Armageddon. Je continue le texte. Ceux de Séba et de Dedan, les marchands de Tarsis et tous ses princes te diront ce jour-là, est-ce donc pour piller, pour faire du butin, que tu as rassemblé tout cet amas de troupes et que tu es venu? Est-ce pour enlever l'argent et pour emporter l'or, pour prendre les troupeaux et t'emparer des biens, pour faire un grand pillage? Séba et Dedan et Tarsis représentent des peuples qui vivent du commerce. Ayant été avertis de l'invasion d'Israël et reniflant une aubaine, ils envoient des caravanes et leur flotte en Palestine pour acheter le butin que Gog va piller. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Je continue. C'est pourquoi, toi, fils d'homme, prophétise et va dire à Gog, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Assurément, en ce temps-là, où mon peuple Israël habitera là-bas, dans la sécurité, tu te mettras en marche. Tu quitteras le lieu où tu seras à l'heure aux confins du Septentrion, toi et les nombreux peuples qui seront tes alliés, tous montés à cheval, grande coalition et armée innombrable, et tu viendras attaquer mon peuple Israël comme un nuage qui vient couvrir la terre. Je te ferai venir attaquer mon pays dans les temps de la fin, afin que les nations apprennent à connaître qui je suis. Quand par mes actes envers toi, je démontrerai à leurs yeux ma sainteté, ô Gog. Les temps de la fin concernent l'avenir lointain par rapport à Ézéchiel. C'est l'Éternel qui orchestre ce jugement dans le but de révéler qui il est, sa grande puissance et sa souveraineté dans les affaires des hommes. Sachant cela, il ne faut pas avoir beaucoup de jugeote pour comprendre que s'opposer à Dieu est une attitude de tout ce qu'il y a de plus suicidaire. Le second livre des Chroniques rapporte que le bon roi Josaphat a dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ?» Je continue le texte. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas toi dont j'ai parlé il y a bien longtemps par les prophètes d'Israël, mes serviteurs, qui ont prophétisé déjà en ce temps-là, et pendant des années que je te ferai venir pour les combattre. » C'est ici la déclaration formelle du jugement de Dieu contre Gog et ses hordes. Ce châtiment prophétisé de longue date va vraiment s'accomplir. Je continue. En ce jour-là, au jour où Gog pénétra sur le sol d'Israël, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. La colère me montera jusqu'au visage. Dans ma passion et dans ma colère ardente, je le déclare, une grande multitude surviendra en ce jour-là au pays d'Israël. Devant moi trembleront les poissons de la mer, les oiseaux, les bêtes sauvages, tous les animaux qui rampent sur le sol et tout homme qui vit sur la surface de la terre. Les montagnes s'écrouleront, les falaises s'affaisseront et toutes les murailles s'effondreront à terre. Les tentatives répétées de faire disparaître Israël ont fatigué l'Éternel qui est à bout de patience. Alors, quand Gog et ses armées arrivent pour anéantir le peuple de Dieu, Dieu se fâche pour de bon et organise un comité d'accueil, c'est-à-dire un tremblement de terre apocalyptique d'une magnitude encore jamais vue. Je finis de lire le chapitre 38. J'appellerai alors la guerre contre Gog sur toutes mes montagnes. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, et ils s'entretueront, chacun tirant l'épée contre son camarade. Je ferai son procès par la peste et le sang, et je ferai tomber une forte pluie, des grêlons, du feu et du soufre sur lui, sur ses légions et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître à des nations nombreuses. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel. L'Éternel sème la confusion dans les rangs des armées qui convergent sur Israël. L'absence de communication cohérente entre les envahisseurs crée une panique monstre. Ne sachant plus qui est ami ou ennemi, ils retournent leurs armes les uns contre les autres. De tels faits de guerre ont déjà eu lieu lors des victoires du juge Gédéon et du roi Josaphat. Dieu décime aussi les rangs de Gog par la maladie. Par un déluge de grêle, de feu et de soufre, ce phénomène rappelle le jugement de Sodome et Gomorre, ainsi que les plaies infligées à l'Égypte qui ont obligé Pharaon de laisser partir le peuple hébreu. Ce tableau du prophète Ézéchiel est un avant-goût de ce qui se passera durant la grande tribulation, c'est-à-dire la deuxième moitié des 7 ans du jugement décrit dans le livre de l'Apocalypse. Notre monde court vraiment à la catastrophe. Mais qui s'en inquiète? Un jour, j'ai entendu un prédicateur dire « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne se précipitent pas pour chercher refuge auprès de Jésus-Christ. » Eh bien, je dois avouer que moi non plus.